Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme.
La musique de la Grande Guerre, une chronique de Christiane Weissenbacher.
On doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
S'il y avait eu des Alsaciens pour croire, entre 1914 et 1918, que la musique française n'existait pas, force leur fut de découvrir au cours des 10 années suivantes que non seulement elle existait, mais qu'elle était presque devenue la seule au monde. À la germanisation absolue de Pfitzner succéda en effet la francisation radicale de Ropartz. Après un virage dont on peut apprécier la brusquerie dans le programme du concert d'abonnement confié au nouveau responsable du Conservatoire et des concerts municipaux le 5 février 1919, soit 2 mois avant sa nomination officielle en avril. Le concert commença avec l'hymne à la justice d'Albéric Magnard. Choix légitime en ce qui concerne le compositeur, qui était l'un des meilleurs amis de Ropartz, et dont on avait fait un héros après qu'il eut trouvé la mort le 3 septembre 1914 en défendant son manoir à Baron dans l'Oise face à un régiment d'Uhlans. Le choix de l'œuvre est plus suspect, car cette musique, au demeurant excellente, composée peu avant la mort de Zola en 1902 et dédiée à l'artiste nancéen Émile Gallet, avait été conçue comme une prise d'armes en faveur de Dreyfus. Transposée dans le contexte de 1919, elle assimilait bien sûr la victoire de la justice à la victoire de la France, ce qui n'était pas la meilleure façon d'amorcer le dialogue nécessaire, en Alsace-Lorraine plus que partout ailleurs, entre vainqueurs et vaincus. Après un concerto de Bach interprété par Blanche Selva, Ropartz fit entendre sa propre « Cloche des morts », une page symphonique composée en 1887 à l'âge de 23 ans, car Ropartz est né en 1864, il y a exactement 150 ans. Si le titre semble honorer tous les morts, toute guerre et toute nation confondues, le contexte en fait un nouveau clin d'œil nationaliste. Il s'agit en effet d'un paysage breton, suivi dans le programme par la symphonie sur un champ montagnard de Dindy, deux œuvres témoignant avec force, pour des membres de la Schola Cantorum comme l'étaient Magnard ou Selva, de l'intérêt du folklore régional pour l'édification d'une musique nationale. En d'autres termes, si la Bretagne et les Cévennes pouvaient rester bretonnes ou cévenoles tout en appartenant à la France, l'Alsace pouvait appartenir à la France tout en restant alsacienne.
Thank you.
près d'Indy, Ropart se dirigea à l'interlude symphonique de la Rédemption de Franck, une œuvre qui appelle le même commentaire que l'hymne à la justice de Magnard. Franck est en effet le maître dont Ropart se subit le plus l'influence, et sa Rédemption, un poème symphonique composé juste après la guerre de 1870, chante la prière des justes qui sauva l'humanité après son plongeon dans la barbarie. Il y a là une discrète allusion religieuse que cachaient déjà les œuvres des fervents catholiques Ropart et d'Indy, et qui réapparaîtra dans l'ouverture d'Egmont proposée en finale. Car si Egmont symbolise avant tout la lutte des Pays-Bas pour leur indépendance face à l'oppresseur espagnol, son drame est indissociable de la rivalité religieuse qui opposa au XVIe siècle l'Espagne catholique aux provinces calvinistes du Nord, et une telle rivalité ne pouvait pas laisser les Alsaciens d'après 1918 indifférents. S'il y avait deux compositeurs germaniques au programme de ce concert, Bach et Beethoven, c'était moins au titre de collègues allemands de Magnard et de Ropart qu'à celui de classique universel. En 1919, au pays des deux Mathildes, l'hymne à la fraternité des peuples reste à inventer.